Parcours sur FM Plus, André Bourguet au micro. Bonjour et bienvenue dans cette plage hebdomadaire consacrée généralement à des conférences. En l'occurrence, cette semaine, une réflexion d'Olivier Abel sur le philosophe un peu hors pair, Paul Ricoeur, qu'il a beaucoup fréquenté. Olivier Abel, lui-même philosophe, enseigne actuellement à la faculté de théologie protestante de Montpellier. Il était invité de l'Église protestante unie de cette ville et introduit par le pasteur James Woody, qui a fait allusion à Macron, lecteur de Ricoeur. Macron, en effet, fera remarquer Olivier Abel hors antenne, qui, à 22 ans, faisait un commentaire remarqué d'un livre de Ricoeur en parution. Olivier Abel.
Donc voilà, l'actualité de Ricoeur, c'est ça le thème que tu m'as proposé, que vous m'avez proposé. Bien sûr, elle est très liée à Macron, à l'actualité de l'élection de Macron. C'est peut-être dommage, parce qu'on pourrait dire qu'en fait, l'actualité de Ricoeur ne dépend pas de Macron. Elle est beaucoup plus ample, elle est beaucoup plus diverse. J'y reviendrai, il y a beaucoup d'autres lectures de Ricoeur que celles de Macron. Mais Macron en propose une, à sa manière, et je vais à deux ou trois reprises la croiser. J'entendais ce matin le philosophe Luc Ferry dire avec ce ton inimitable qu'est le sien, « De toute façon, il n'y a pas de grand philosophe au centre. » Et donc il parlait du philosophe de Macron, et donc il parlait de Ricoeur. C'est très typique de l'élégance de Luc Ferry, je le reconnais bien là. Pour lui, quelqu'un comme Tocqueville est évidemment beaucoup plus grand que Ricoeur. Ce qui est évidemment faux. Ricoeur est le plus grand des philosophes français de la seconde moitié du XXe siècle. On le réalise peu à peu, il est plus important que Sartre. Il est plus important que Merleau-Ponty. Il est plus important que Lévinas. Il est plus important que Derrida. Son œuvre a une ampleur, je dirais physique, telle qu'il laboure tous les champs de la connaissance. Et voilà. La fertilité de l'œuvre de Ricoeur, on va le voir à la longue. Et c'est comme des grands auteurs, un peu comme, je ne vais pas exagérer, je l'ai cité Aristote, si vous voulez, mais des gens qui structurent le vocabulaire, la mémoire de la pensée pour, dans tous les champs, pour plusieurs générations, de manière très très durable. Son problème, pourquoi est-ce qu'il est si méconnu, pourquoi est-ce qu'il était si méconnu, il faut le dire d'un mot, il a été traité de philosophe chrétien, ce qui était une injure en France, bien sûr. Et c'est une étiquette difficile à porter dans la France des années 68, mais même après, mais même aujourd'hui d'ailleurs. Et voilà, il n'était pas... C'était un grand lecteur de Marx, mais qui n'était pas marxiste, ce n'était pas un structuraliste, ce n'était pas... etc. Lui-même disait qu'il n'était pas un philosophe chrétien, il était un philosophe tout court, et puis un chrétien d'expression philosophique, comme il y a des musiciens d'expression, des chrétiens d'expression musicale comme Bach, ou des chrétiens d'expression picturale comme Rembrandt. Donc lui, un chrétien d'expression philosophique. Voilà, c'est avec la philosophie qu'il s'exprime. Ricoeur est né en 1913, son père est mort quelques mois plus tard, sa mère est morte juste après sa naissance, deux mois plus tard, son père est mort quelques mois plus tard à la première bataille de la Marne, donc il est orphelin. Il est orphelin, élevé comme pupille de la nation. Il va grandir dès qu'il va atteindre l'âge de la conscience, spirituelle, politique, humaine simplement. Il va grandir dans une conscience très aiguë, je dirais, de pacifiste, de non-violent. L'affaire Sacco et Vanzetti, il a 11 ans, le révolte absolument. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a des indignations. Grand lecteur, c'est la seule vie qu'il y avait autour de lui dans un milieu où il y avait tant d'hommes qui avaient disparu, c'était les livres. Il ne passe pas le concours de l'école normale, autre différence avec beaucoup de grands intellectuels français, parisiens, qui tous passent par Normal Sup, bien sûr. Donc lui, il est en Normandie, il est en Bretagne, il est à Rennes. Au moment de la guerre, il est quand même agrégé de philosophie, je crois qu'il est reçu 3e, je ne sais pas. Au moment de la guerre, il est mobilisé, captivité. Et à ce moment-là, il va réaliser qu'il s'est trompé. C'est-à-dire que son pacifisme, qu'il discutait pied à pied avec des amis comme André Philippe, qui était député du Rhône, lui aussi barthien, christianisme social surtout, etc. Eh bien, les autres disaient, non, mais Paul, il faut réarmer la France. Et Ricoeur est resté jusqu'en 1938, convaincu que non, l'Allemagne allait s'arrêter, qu'on l'avait humilié, qu'il fallait accepter quand même, etc. Et donc, il a vécu ça comme une énorme erreur personnelle. Et donc, dans ses carnets de captivité, il note, je sais désormais que je peux me tromper de jugement politique. C'est important de savoir ça, parce que je pense que ça, c'est peut-être une petite différence avec Macron. Je ne suis pas sûr que Macron ait ce doute politique profond que Ricoeur avait. Ensuite, il revient, il est au collège Sevenol, au Chambon. Il est ensuite nommé à l'université de Strasbourg, des années très heureuses, prof d'histoire de la philosophie. Puis il arrive à la Sorbonne, c'est son honneur de plus grande gloire. Il a comme assistant, Jacques Derrida, etc. Puis après, on va créer l'université de Nanterre. Il est de ceux de la Sorbonne décidés à quitter la Sorbonne pour aller dans la banlieue, dans des bâtiments préfabriqués pour faire l'université populaire, on va dire, décentralisée, en dehors des murs de Paris, dans la boue. Il invite Lévinas, il invite quelques autres, et il crée l'université de Nanterre, un département de philosophie. Et puis, juste après, c'est 68, Cohn-Bendit qui rentre dans l'amphithéâtre en disant « Ricoeur, c'est fini !» Et donc, tout le monde vide l'amphithéâtre, il y avait 800, 1000 étudiants, c'est une très grande université Nanterre. Et Ricoeur va être pris dans ses remous. James en a parlé un petit peu. Il accepte la responsabilité d'être doyen de Nanterre. Je vous raconte un peu sa vie pour que vous voyez un peu qui il est, qu'est-ce qu'il a traversé. Il est doyen de Nanterre de 69 à 71, non, à 60, fin 70. Et puis il reçoit une poubelle sur la tête. Et puis il y a des affrontements entre des gauchistes et la police. Il essaye justement de préserver le campus. C'est très difficile, finalement il donne sa démission. Et en même temps, c'est un moment de rupture pour lui, parce que finalement, il y a tout le monde qui lui tombe dessus, si je puis dire. Tous les grands intellectuels français, Lacan, etc., dit que de toute façon, ce n'est qu'un chrétien, et donc intellectuellement, ça n'a aucune qualité. Et alors qu'il avait déjà écrit un certain nombre de livres vraiment importants, y compris bêtement peut-être un livre sur Freud, il ne fallait pas s'attaquer à Freud si on voulait être respecté de Lacan, ou alors il fallait faire un livre d'hommage à Lacan. Et bien donc, à ce moment-là, Ricoeur, il en a un peu marre, et c'est à ce moment-là qu'il va accepter de passer la moitié de son année, tout le semestre d'hiver, à Chicago, où il prend la place d'un autre grand penseur, un théologien et philosophe d'ailleurs aussi, Paul Tillich, qui est à Chicago à ce moment-là, qui vient de mourir. Donc il va partager sa vie entre les USA et la France, tout en continuant à enseigner en Nanterre, où moi je l'ai eu comme professeur. Et puis il se promène un peu dans le monde entier à l'invitation de beaucoup d'universités. Il a un grand malheur en 1986, il perd son fils, un de ses fils, il a 5 enfants, son quatrième, son avant-dernier fils, qui se suicide, et c'est un très grand malheur, il aura beaucoup de mal à s'en remettre. Et voilà, il meurt après avoir écrit, je vais revenir sur son œuvre, il meurt en 2005 à Châtenay-Malabry. Moi je l'ai connu en effet en 1966, donc je l'ai connu à Châtenay-Malabry, où mon père était pasteur, et donc je le connaissais, j'étais dans la classe de son fils, donc je suis beaucoup allé le voir comme adolescent, je lisais ses livres, j'allais l'interroger, j'avais la chance de rentrer directement dans son bureau pour l'interroger. Au-dessus de chez lui, il y avait Henri Irénée Maroux, il y avait Maroux, l'historien, enfin moi, c'était une communauté, il y avait Domenac, il y avait Madame Mounier, Paulette Mounier, c'était la communauté esprit, si vous voulez, des murs blancs à Châtenay-Malabry, c'était un lieu extrêmement chaleureux, que j'ai beaucoup fréquenté et aimé. Puis après, je suis venu à Montpellier, comme je disais tout à l'heure, et je suis retourné en 75 pour travailler avec lui, faire mon DEA avec lui et Lévinas, 77, et puis après, finalement, en 83, j'ai fait ma thèse avec lui. Depuis donc à ce moment-là, quand je suis revenu à Paris, on a noué cette amitié. Je dis ça pour dire que Ricoeur était quelqu'un d'extrêmement accessible. Et ça ne m'étonne pas qu'un jeune homme comme Macron, Ricoeur ne s'intéressait pas forcément aux grands, uniquement aux grands. Il prenait, je dirais, tous ceux qui venaient à lui, il les prenait, et il les prenait en amitié, on va dire. Il avait cette amitié pour les gens, cette proximité, très proche. Et à tel point que nous ne savions pas à quel point il avait beaucoup d'amis, il avait énormément d'amis dans le monde entier. Nous avons mis beaucoup de temps les uns et les autres à élargir nos cercles pour comprendre tous ceux qu'il connaissait. Je suis sûr que dans l'auditoire ici, il y a des gens qui ont connu Ricoeur et qui même ont été peut-être même des proches de Ricoeur, et peut-être que je ne les connais même pas encore. C'est très possible. Ça m'arrive tout le temps, si vous voulez, de rencontrer des gens. Ah, mais j'ai fait ça avec Ricoeur. Et même des, voilà, des grandes proximités. C'est ainsi que Macron est rentré dans la proximité de Ricoeur, j'y reviendrai tout à l'heure, pour, comme assistant éditorial de son livre « La mémoire, l'histoire, l'oubli ». Et nous l'avons fait rentrer au comité éditorial du Fonds Ricoeur. Et donc voilà, on l'a fréquenté pendant quelques années de manière assez proche, assez fréquente. Qu'est-ce que la pensée de Ricoeur ? Ricoeur, c'est d'abord un style philosophique, c'est un style interrogatif. C'est une manière de questionner, une manière de faire dialoguer. Ricoeur, c'est un dialogueur, quelqu'un qui ne pense pas tout seul, qui pense avec, et qui fait dialoguer même des gens qui n'ont jamais dialogué, Aristote et Augustin, Hegel et Platon, enfin, vous voyez, des gens absolument étrangers les uns aux autres, hein, qui étaient loin les uns des autres. Donc il les fait dialoguer, il garde de Platon ce sens du questionnement sans fin, je dirais, d'Aristote ce pluralisme méthodique, on va dire, il y a des champs différents qui demandent des méthodes différentes, et de Kant, ce sens des limites. Il y a des limites, il n'y a pas de discours qui peut être juste à tous les niveaux de manière monodrome. Il fait dialoguer, il fait s'interroger, il montre la pluralité des points de vue, la pluralité des interprétations, la discontinuité des problèmes, comme il dit. Je dirais qu'il déconstruit, il écrit temps et récit, il parle de l'identité narrative, et dans ses conclusions, il démolit tout ce qu'il a fait, pratiquement. Alors, en général, on s'arrête avant les conclusions, parce que ça y est, on a le sommet du livre, les conclusions, on pense que ça va être juste le résumé. Non, pas du tout, il déconstruit dans ses conclusions tout ce qu'il a fait, c'est absolument des conclusions absolument extraordinaires. Il a mis d'ailleurs un an à les rédiger, ses conclusions. Et voilà, ça c'est la démarche de Ricoeur, un peu comme Pénélope, on fait, on défait, on refait, on redéfait, etc. On n'arrête pas. Quand il dit qu'il dialogue, il fait dialoguer la philosophie avec des sources non philosophiques. Quand il travaille la philosophie antique, il la met en dialogue avec la tragédie grecque. Quand il travaille sur, il faut le dire, la philosophie chrétienne, parce que la philosophie d'Augustin jusqu'à Kant et Hegel, c'est la philosophie chrétienne. Peut-être pas Spinoza, si vous voulez, d'accord. Bon. Donc ben, il les met en dialogue avec le texte biblique, avec la pluralité des textes bibliques. Il fait dialoguer la philosophie avec les sciences humaines, avec l'histoire, avec la sociologie, avec la psychanalyse, avec la théorie littéraire. C'est des ouvrages sur la métaphore, sur le récit. Il fait dialoguer les traditions philosophiques, la tradition anglo-saxonne, Wittgenstein, la tradition continentale, Husserl, la phénoménologie, etc. C'est un traducteur, on va dire. Il a traduit énormément, il a fait traduire. Et puis en philosophie politique aussi, il fait dialoguer les traditions. J'y reviendrai. Donc ces grands thèmes, je pourrais les nommer comme ça très rapidement, il y a la question, je dirais la question du mal, et donc de ce point de vue-là, son thème premier, c'est l'éthique. Et je dirais l'éthique dans un sens politique, parce que le mal, c'est pas seulement un petit péché moral individuel. Le mal a une ampleur qui traverse les institutions, qui traverse l'économie, qui traverse l'État. L'État peut devenir mauvais, on l'a vu avec le nazisme, il peut y avoir des lois scélérates. C'est aussi la culture, c'est aussi la religion, c'est aussi voilà, toutes les. Il y a des grandes sphères qui sont des sphères de, je dirais, de déchéance humaine, et puis qui sont aussi des sphères d'espérance humaine. Donc le mal et le combat contre le mal n'est pas seulement moral, il est aussi politique, il traverse aussi des grandes structures collectives. Mais l'orientation de Ricoeur, c'est une orientation, je dirais, affirmative, vers le oui. Il y a une affirmation, il y a une orientation. De la pensée de Ricoeur qui explique, je dirais, sa manière de dire Oui, à travers un non, mais quand même oui. Il y a une tension entre le oui et le non qui est fondamentale, cher Eric. Bon, un concept, une sorte de correction mutuelle, concept. Hein. Amour et justice, responsabilité et conviction, etc. On pourrait prendre une grande partie de l'œuvre de Ricoeur et y trouver ces tensions fondatrices. Et notamment sur la conception du sujet éthique, le sujet humain en tant que... Mais d'abord, il est coupable, justement. D'abord, Ricoeur mesure ça, la culpabilité, le mal, la capacité au mal. J'y reviendrai. Ensuite, il est coupable, mais il est fragile. Il est d'abord vulnérable. Il est encore plus vulnérable, il est encore plus fragile que coupable. Et puis, au fond, derrière sa vulnérabilité, il est capable. Il est quand même capable. Sinon, il ne serait pas coupable s'il n'était pas capable. Donc, il y a aussi une capacité. Ça, c'est un terme que Macron a beaucoup repris. Donc ça, c'est le premier thème, le mal, l'éthique. Deuxièmement, c'est la situation, je dirais, la situation des langues. Nous sommes, les humains sont des sujets langagiers, de langage. Il y a du langage, et le langage apparaît sous la forme de langues au pluriel. Il n'y a pas une humanité, il y a des humanités, des cultures, des civilisations. Et la condition actuelle est une condition de dialogue extrêmement difficile des cultures et des civilisations. Dans un texte de 1960, il écrit que voilà, c'est le danger lorsqu'on se confronte à d'autres civilisations, c'est le relativisme général. C'est, en gros, on devient tous des touristes. Des touristes, c'est-à-dire qu'on peut se promener, il n'y a plus que des autres. Et Ricoeur dit, mais pour rencontrer un autre que soi, il faut avoir un soi. Il faut exister soi-même pour rencontrer. Il faut avoir sa propre tradition, sa propre culture, sa propre langue. Il faut être bon dans sa propre langue, dans sa propre culture, pour pouvoir rencontrer un autre et être disponible et accueillant à l'autre. Ça, c'est un point très important pour comprendre comment et de quelle manière Ricoeur est, je dirais, resté protestant. Il est resté protestant aussi de cette manière-là. Il dit, c'est un hasard de naissance, c'est vrai, moi je suis né protestant, un hasard transformé en destin par un choix continu. Il a essayé de rendre intelligible, essayer de comprendre ce qui lui était arrivé de naissance, si je peux dire. De naissance, il dit aussi, ça peut être de rencontre, parce qu'on est dans une langue, on est né dans une langue, ou bien on est transféré dans une langue par hospitalité, par déplacement, par exil, par migration, par conversion, etc. C'est possible, tout à fait possible aussi, bien sûr. Mais ça veut dire qu'il y a une finitude. Nous avons par notre naissance, nous sommes des êtres nés, nous sommes des êtres mortels, mais d'abord nous sommes des êtres nés. La finitude, c'est d'abord la finitude de la naissance. Nous sommes nés quelque part. Eh bien, nous sommes en dette, nous devons assumer là où nous sommes nés, et nous devons le porter, nous devons le porter de manière inventive, de manière créatrice. Ça, c'est un point très important. Et c'est, je dirais, le cœur de sa, je dirais aussi de sa philosophie herméneutique. Excusez-moi, il fallait bien que le mot sorte. Ricoeur, c'est la philosophie herméneutique, c'est un mot très difficile. Herméneutique, en fait, c'est un mot très compliqué qui vient du grec herméneia, qui veut dire interpréter. Ça veut dire que nous sommes des sujets interprètes. Nous sommes des interprètes. Nous interprétons le fait d'être nés. Nous répliquons au fait de la naissance, dit Hannah Arendt, par l'interprétation. C'était aussi Heidegger qui disait ça. Ricoeur est très proche de ça. Simplement, l'interprétation, on arrive dans un monde qui est déjà interprété par ceux qui nous précèdent. Et donc, dit Ricoeur, nous survenons au beau milieu d'une conversation qui a déjà commencé. Et à notre tour, nous allons continuer la conversation et nous allons nous retirer pour laisser la place à d'autres après nous de poursuivre la conversation commencée avant nous. Ça, c'est vraiment, je dirais, la condition herméneutique, la condition interprétative, c'est celle-là. Et donc, c'est à la fois une condition de... On s'inscrit dans une tradition et en même temps, à son tour, on apporte quelque chose, on invente, on propose des écarts et des innovations. Donc voilà, ce thème de la confiance en soi est un thème très important. Notre thème, c'est le thème du sujet qui interprète, justement. Et bien, ce sujet, il n'est pas pareil que lui-même, identique. L'identité, c'est une identité qui change, qui s'ouvre, qui vient de mille sources. Et en plus, nous sommes régénérés, réengendrés par toutes nos rencontres et fondamentalement, pour Ricoeur, par toutes nos lectures. Pour Ricoeur, le soi, il est au miroir des Écritures. C'est devant les Écritures, devant les Écritures bibliques, mais aussi devant la tragédie grecque, mais aussi devant Shakespeare, mais devant... Les textes sont des occasions de renaissance, de recommencement radical parfois. Et donc, il ne faut pas chercher derrière le texte, il faut voir ce que le texte nous fait faire, nous ouvre devant nous. Et donc, c'est un monde ouvert devant le texte. Du coup, aussi, il y a une pluralité d'interprétations, parce que de la même manière que la même partition musicale va être interprétée diversement par divers musiciens, divers interprètes, de la même manière, nous interprétons différemment. Et même, il n'y a que des interprétations, il n'y a pas deux interprétations identiques. Ce n'est pas possible. Herméneutiquement, ce n'est pas possible. Nous avons tous des interprétations différentes. Donc, il y a une pluralité d'interprétations. Et du coup, parfois, il y a des conflits d'interprétations. Ricoeur a écrit un livre important, en 69, intitulé « Le conflit des interprétations ». Ricoeur, c'est un homme qui ne cherche pas à cacher les désaccords. Il faut penser la confrontation, il faut la formuler, il faut aller jusqu'au bout de la formulation de ce qui va, parce qu'on l'a formulé, devient une conversation, un dialogue infini. Quatrième thème, le thème du temps. Ricoeur a beaucoup travaillé sur le temps. Il a écrit un gros livre intitulé « Temps et récits », en trois volumes, là encore, selon lequel le temps humain est un temps raconté, un temps configuré par le récit, par des récits. Mais ça veut dire aussi qu'il faut pluraliser l'histoire. Il n'y a pas un seul récit. Il y a plusieurs récits possibles sur les mêmes vécus. Il y a plusieurs manières de dire. De toute façon, l'histoire elle-même, il y a histoire parce qu'il y a plusieurs histoires. On n'est pas dans une seule histoire. Il le dit même d'ailleurs pour l'histoire de France, par exemple. Il écrit « La vague de l'histoire ne monte pas au même moment sur toutes les plages de la vie d'un peuple. » Il veut dire que on ne peut pas être bon tout le temps, à tout point de vue, dans tous les domaines. Parfois on est bon militairement, mais on n'est pas bon dans les arts. Ou parfois on est moins bon militairement, mais on est excellent en littérature. Parfois, les sociétés ont des horloges compliquées, beaucoup plus compliquées que le succès ou l'échec. C'est plus compliqué que ça, la réalité historique. Ricoeur écrit en pleine guerre froide, « Compliquons, compliquons tout ». Alors là, il a réussi. Il a parfaitement réussi son pari. Il a bien compliqué. Compliquons tout, le manichéisme en histoire est bête et méchant, dit-il. C'est aussi l'idée qu'on peut rouvrir dans le passé des possibles enfouis, des possibles écrasés. La fiction, notamment, et parce que le récit, c'est le récit historiographique, mais c'est aussi le récit de fiction, la fiction est comme une tête chercheuse qui permet de rouvrir dans le passé des possibilités qui ne se sont pas réalisées effectivement dans l'histoire historique, mais qui, fictivement, eux ne savaient pas que ça n'allait pas se réaliser. Ça aurait pu se réaliser. Et la fiction, en ce sens-là, est très importante, même pour comprendre le passé, hein, pour comprendre l'édit de Nantes. L'édit de Nantes aurait pu marcher. Que serait une France où l'édit de Nantes aurait mieux tourné, d'une certaine manière, et se serait réellement installé durablement, hein. Donc voilà, il y a un rôle de la fiction. Et puis, je parlais d'identité narrative, en disant que l'identité, elle varie, elle a plusieurs sources, elle a plusieurs origine, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de synthèse, il n'y a pas de récit des récits. Il faut renoncer à Hegel, il faut renoncer à faire une synthèse absolue de tous les récits narratifs. Le dernier thème que j'évoque, le thème de l'action, eh bien, Ricoeur insiste dans un grand livre qui s'appelle « Soi-même comme un autre » sur les capacités, justement. C'est là qu'il développe les capacités de parler, capacité d'agir, capacité de s'imputer des actions, de dire que j'ai fait quelque chose, agir, parler, s'imputer quelque chose, capacité de narration, narrative, après capacité de responsabilité, capacité éthique. Vous voyez, je fais une petite parenthèse, il ne peut pas y avoir un sujet moral s'il n'est pas déjà capable de narration. Et aujourd'hui, peut-être, dit Ricoeur quelque part, c'est que la capacité narrative s'est affaissée. Il y a un affaiblissement de la capacité narrative, on ne croit plus au récit. Walter Benjamin écrivait quelque chose sur le déclin de l'art du récit. Après la guerre, après Verdun, on ne raconte pas, ce n'est pas la peine de raconter. Après Auschwitz, ce n'est pas la peine de raconter, ils ne comprendront pas. Et les autres n'essayaient même pas de dire, mais alors raconte, raconte. Et on renonce à raconter. Mais ça touche toute la vie, c'est une sorte d'appauvrissement de l'expérience, parce que nos expériences ne sont riches que du partage par narratif de nos existences. Donc voilà, on peut constituer un sujet éthique que sur la base d'un sujet déjà capable d'agir, de parler et de raconter. Alors l'éthique elle-même, elle a trois étages, je vous l'ai dit très vite. Il y a la visée éthique, qui est la visée du bon. Il y a la norme morale, qui plutôt nous protège du mal. La visée éthique, elle est plutôt spinoziste ou aristotélicienne. la norme morale, c'est plutôt qu'ancien, c'est plutôt mettre des limites, hein, ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, voilà, c'est des choses comme ça. Et puis la sagesse pratique, c'est de l'autre côté du tragique, parce que de toute façon, on rencontre le tragique, c'est le moindre mal, c'est juste la sagesse du moindre mal, la sollicitude, etc. Cette manière un peu pluraliste de faire de la morale, il n'y a pas une morale pour Ricoeur, il y a un temps pour l'éthique et un temps pour la morale, il y a un temps pour la morale et un temps pour la sagesse. C'est, vous voyez, c'est un peu bancal. Ricoeur, il est en général assez bancal, si vous voulez. C'est vraiment en ce sens-là, le philosophe tel que défini par Merleau-Ponty. On retrouve ça en politique. En politique, pour Ricoeur, il y a d'un côté une conception positive du politique, dans laquelle le politique, c'est vraiment le lien d'association, de l'agir ensemble, comme dirait Arendt, qui est rationnel et dans lequel on fait un pacte ensemble pour faire des choses ensemble. Et ça, c'est une dimension horizontale de bien commun. Mais en même temps, le politique, c'est le lieu de la domination, c'est le lieu de la violence, c'est le lieu aussi, du coup, de la recherche d'une force capable de nous protéger de la violence, et donc une recherche de la verticalité, du pouvoir vertical, mais protecteur, on va dire, et donc de l'autorité protectrice, et donc une dimension verticale. Vous voyez, donc, c'est bancal. Il y a quelque chose d'horizontal et quelque chose de vertical. Je pense que Macron a beaucoup gardé le côté vertical. Les deux. Il tient aux deux, hein. Il tient aux deux, mais on va avoir un débat, là, je pense, peu à peu, qui va se créer en lui-même, je pense. Parce que je pense qu'il a compris qu'en France, qui est un pays de vieille tradition monarchique et jacobine, qui est très centralisé, il faut quand même de la verticalité. Il faut que l'État soit là. Sans ça, c'est pas du tout un banquier, si vous voulez. Alors, pas du tout. Hein. C'est vraiment un politique. Un politique très jacobin de ce point de vue-là, ou très monarque, on a vu, jupitérien, a-t-il dit. Donc, voilà, Ricoeur, il y a ces deux côtés. Il y a un côté, une philosophie politique du pacte, très horizontale, et une philosophie politique de, il y a quand même de la violence. Il ne faut pas sous-estimer la violence dans l'histoire, et donc le besoin d'autorité capable d'arrêter la violence, est capable de la canaliser, capable de protéger la minorité des majorités, etc., etc. Et puis vraiment une dimension dans laquelle tantôt l'éthique de l'intérieur anime le politique positivement, et puis tantôt de l'extérieur l'éthique résiste aux abus du pouvoir. Et donc il y a un dedans-dehors qui est très important chez Ricoeur, il faut être à la fois dedans et dehors. Les gens qui sont tout le temps dans le pouvoir, parce qu'il faut être dans le pouvoir, c'est l'idée machiavélique, et des gens qui sont toujours dehors en disant qu'ils sont des idéalistes, mais en même temps qu'ils sont cyniques, parce que finalement, ils ne passent leur temps à dénoncer, mais ils n'ont aucune responsabilité. Là, ça ne va pas non plus. Hein, bon. Donc, Ricoeur dit, il faut tricoter les deux choses. Bon, voilà, tout ça, c'est les grands thèmes de la pensée de Ricoeur, avec ses grandes œuvres, philosophie de la volonté, histoire et vérité, le conflit d'interprétation, temps et récit, soi-même comme un autre, etc.
Radio FM+, réseau associatif régional en Languedoc-Méditerranéen, émettant sur Montpellier et Nîmes. Le professeur Olivier Abel vient de nous présenter le philosophe Paul Ricoeur et les grands axes de sa pensée. Il se recentre maintenant sur l'ouvrage annoncé.
Alors, la mémoire, l'espoir, l'oubli. D'abord, son noyau, c'est un noyau sur la mémoire et l'oubli. Ricoeur faisait comme ça. Il fait une conférence, par exemple, à Montpellier, à Maguelone, sur la mémoire. Quelques mois plus tard, il y a un autre endroit qui lui demande une conférence sur l'oubli. Ah bon, d'accord. Alors, et puis, il va mettre les deux conférences ensemble et dire, oh, tiens, il y a quand même quelque chose, je peux les tricoter ensemble. Puis, peu à peu, on va lui demander un cours à Madrid, un petit cours, trois séances, etc. Il va faire un petit cours sur mémoire et oubli en trois séances. Après, soudain, il a dit, mais attends, j'oublie quand même quelque chose d'important par rapport à la mémoire, c'est l'histoire. Hop, on va glisser, mémoire, histoire, oubli. Enfin, un sandwich, si vous voulez. Bon, oui, il prend comme ça. C'est comme ça, moi, j'ai participé beaucoup à l'évolution de ce livre. Donc, le premier noyau, 95, et puis jusqu'à ce qu'en 1999, Ricoeur, qui n'a jamais touché un ordinateur, et qui est quand même qui a accumulé des notes pour faire un livre aussi gros que ça, Ricoeur demande aux éditions du Seuil s'il n'y avait pas quelqu'un qui pourrait lui servir un peu d'assistant de rédaction. Et c'est là que François Doss avait présenté Macron à Olivier Mongin et d'esprit, et Olivier Mongin dit, ah bah tiens, voilà, regarde Macron, Emmanuel Macron, voilà, vous êtes disponible, vous avez 21 ans, ben, venez travailler un peu chez Ricoeur, il demande quelqu'un qui sache écrire. Bon, il sait. Donc il met en ordre toutes les notes, toute la bibliographie, et puis il fait des remarques. J'ai ramené aussi des manuscrits, enfin des copies de manuscrits de Macron à 21 ans, comme ça, qui fait des remarques à Ricoeur. C'est pas clair. Il est gonflé, vraiment gonflé. Il a 21 ans. Moi qui le connaissais depuis si longtemps, jamais j'aurais osé lui parler comme ça. Ça c'est Macron, si vous voulez. Il dit dans ses souvenirs, il dit que. Donc il vient et il aime beaucoup ce vieux philosophe là, et donc il s'installe. Comme il ne le connaît pas, il est complètement pas du tout intimidé. Et le matin, j'allais tous les matins chez lui, au mur blanc, et nous lisions ensemble. Alors, Macron écrit, fait tout un commentaire de La mémoire, l'histoire, l'oubli, dans ce numéro d'esprit que je vous ai montré tout à l'heure, qui montre qu'il a vraiment bien lu, ben forcément, enfin c'est le livre qu'il a mis en forme. Donc, mais ceci dit, il a lu d'autres choses, je ne vais pas du tout en parler ici, il a lu sur le langage du politique, sur justement la pluralité des sources, ça je vais y revenir un petit peu, sur justement la question de la délibération et de l'autorité, sur la question de la capacité, sur la question de l'idéologie, l'idée qu'on a toujours une idéologie, on est forcément dedans, hein, on est au beau milieu, personne ne peut se tirer hop, au-dessus de la condition humaine générale d'être dans un langage et donc aussi dans une idéologie, etc. On a des points de vue. Bon. Tout ça, c'est OK. Non, ce qui intéresse, dans la mémoire à l'histoire de l'oubli, ce qui intéresse Macron, c'est d'abord. Alors, l'article s'intitule La lumière blanche du passé. Et ça, c'est vraiment. La perception de Macron, c'est. La lumière du passé, c'est une lumière blanche. Mais Ricoeur arrive dans son livre à proposer un prisme qui permet de distinguer le passé selon la mémoire. Le passé selon l'histoire, le passé selon l'oubli, le passé selon le pardon. Vous voyez, c'est une jolie image qu'il a trouvée, Macron, là. Une image de Ricoeur offrant un prisme pour analyser le passé, pour analyser la lumière du passé. Ce que... Il s'attache à cette première distinction, qui est une distinction très importante, entre la vérité historique et la justice mémorielle. Vous savez que dans le livre de Ricoeur, il y a deux sujets. Il y a un sujet... on va dire épistémologique, c'est-à-dire la connaissance, qu'est-ce que c'est que la vérité du passé, dans la connaissance du passé, qu'est-ce que c'est que la représentation du passé, et qu'est-ce que c'est que la juste mémoire. Parce que parfois il y a trop de mémoire, parfois il n'y a pas assez de mémoire. Il y a des abus de mémoire ou d'oubli, si vous voulez. Donc c'est deux problématiques différentes, mais tout le temps, mais très liées. Donc, je commence, si vous voulez, par la justice mémorielle. Il écrit, il parle du devoir de mémoire. Ce paradoxe grammatical provient d'un impératif de justice qui retourne la mémoire en projet. Hein, tu te souviendras. C'est drôle parce que tu te souviens, alors au futur, hein, un impératif, donc tourner vers le futur, c'est un projet, on va se souvenir. C'est le schéma Israël, hein, c'est la culture... et hébraïque et juive, bien sûr. Ainsi, le devoir de mémoire est-il le devoir de rendre justice par le souvenir à un autre que moi? Donc c'est pas « je demande justice pour moi », je demande justice pour un autre que moi. Je dois rendre mémoire, le devoir c'est rendre une dette. Et ça, cette idée de dette, c'est une idée très importante. C'est-à-dire, je vais vous dire pourquoi. Je pense qu'il y a aujourd'hui, dans le sillage de Macron, il y a des gens qui pensent que être macronien, c'est je ne dois rien à personne, je dois tout à moi-même. Je suis un entrepreneur de moi-même. Ça, c'est par Ricoeur, en tout cas. Je ne sais pas si c'est Macron, mais en tout cas, c'est par Ricoeur. Et vous voyez ce que dit Macron dans ce texte. À cet égard, la dette, appréhendée sans connotation morale, est la condition de possibilité existentielle de la représentance. L'avoir été l'emporte ainsi sur le révolu. Le passé existe encore au présent, dans la représentation en tant qu'il contenait comme passé du futur. Oui. Il est costaud à 22 ans. Donc c'est-à-dire, notre rapport au passé, c'est un rapport d'endettement. Nous devons quelque chose au passé. Nous devons quelque chose à ce qui a été. ce qui est maintenant est en dette à l'égard de ce qui a été. C'est un point très important, je pense. Et donc, il y a bien quelque chose comme un devoir de mémoire. Mais ça peut devenir un abus du devoir de mémoire. Et Ricoeur, en effet, il ne suffit pas de parler de devoir de mémoire, il faut aussi faire le travail de mémoire. On peut édicter des lois, ça c'est très typique en France, on fait des lois, mais le boulot, il faut le faire, disait Ricoeur. C'est un travail, la mémoire. C'est pourquoi, à l'impératif paradoxal du devoir, Paul Ricoeur préfère la formule de travail de mémoire. Voilà. Bon. Ça, c'est la lecture que propose Macron. Et de l'histoire, ce qu'il dit est très intéressant. Et pour lui, l'histoire, la mémoire est adressée à des sujets personnels, on va dire, qu'on peut individualiser. Mais l'histoire est distante du passé et reste impersonnelle en tant qu'elle est adressée à n'importe quel lecteur. Un livre d'histoire, en principe, il doit pouvoir être lu par quiconque. Il n'est pas pour ma tribu, il n'est pas pour ma communauté, il est pour tout le monde. C'est ça, idéalement, un livre d'histoire. Tout c'est très bien vu. Et donc, c'est l'idée que, parce que justement, le lecteur est anonyme, c'est n'importe qui, c'est le citoyen lambda. C'est n'importe quel citoyen. Et donc, il y a une distance, et donc, il y a un devoir, je dirais, d'équidistance, et donc d'équité dans le rendu du passé. Ça, c'est le travail de l'histoire. Et donc, elle donne à la mémoire, l'équité de l'histoire peut en effet tempérer l'exclusivité des mémoires particulières en donnant aux événements leur juste place, en nuançant les rapports passionnels et vifs au passé de certaines mémoires, en sortant des événements de l'oubli. L'histoire peut alors enrichir la mémoire, la corriger. Il y a un travail de correction mutuelle, vous voyez, de l'histoire et de la mémoire. Et il reprend ça dans un autre article, Macron, toujours lecture de Ricoeur, un autre article, un entretien qu'il a fait dans la revue L'Histoire, au mois de mars 2017, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans lequel il écrit d'abord que dans le passé, ce que nous trouvons, c'est un potentiel commun, c'est-à-dire que Jeanne d'Arc, Clovis n'appartient pas à l'Église catholique, Jeanne d'Arc n'appartient pas à l'extrême droite, etc. Toutes les figures du passé sont communes et tout le monde peut y réouvrir dans le passé des potentialités inachevées. Ça, c'est très Ricoeur. C'est l'idée qu'on peut rouvrir du passé des promesses enfouies, des promesses non advenues. Et puis, il y a aussi dans le passé ce qui nous vient d'ailleurs, ce qui nous vient de partout, ce qui nous vient de plusieurs sources. Je cite, « Nous devons aussi retrouver l'intelligence de ce qui, dans notre roman national, nous vient d'ailleurs. Le projet national français n'a jamais été un projet clos. Il a été un projet de conquête, mais aussi le récipient d'influences italiennes, d'influences variées venues du monde entier. Il n'est pas de France sans influence italienne, espagnole, anglaise, allemande, et plus tard orientale, maghrébine, africaine, américaine, asiatique. Notre culture s'honore d'être le fruit de ce syncrétisme, et c'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y avait pas une culture française. Elle ne s'est jamais construite dans la poursuite imaginaire de racines populaires définissant une culture nationale, fût-ce celle de Charlie Hebdo. » J'ouvre une parenthèse, je vais me faire peut-être taper dessus, mais... La manière de, vous voyez, il y a une culture, la France, c'est nous, on peut rigoler quand même. Donc la culture du fun. Non, la culture française n'est pas que la culture du comique, du gros comique, hein, si vous voulez. La culture française laisse à l'autre une place immense, et c'est ce qui la rend si riche. C'est par essence une culture du dialogue, de l'accueil, de l'intelligence du monde. La culture française est une parce qu'elle est diverse. Alors ça, c'est un point, je crois, très important, parce que... ça veut dire que, et on va retrouver ça pour l'Europe, Ricoeur définit aussi l'Europe en disant l'Europe vient de multiples sources. Il n'y a pas que les Lumières, parce que le projet de l'Europe n'est pas que le projet de la modernité avec, lié aux Lumières, lié à l'émancipation. Il y a aussi le romantisme, il y a aussi la Renaissance et la Réforme, il y a aussi les sources médiévales et de la scolastique, il y a aussi les sources grecques et les sources romaines, il y a aussi les sources de la culture, des cultures germaniques, gothiques, etc. Bon. Et c'est pas fini. Il y a d'autres traditions qui peuvent encore se mêler à ce grand fleuve. C'est pas fini, l'Europe, c'est pas fini. Les identités ne sont pas closes, si vous voulez. Donc ça, c'est un point, je crois, en effet, très important dans lequel Macron est très, très, très proche de Ricoeur. Et puis aussi, c'est l'idée que c'est pas fini, que le passé n'est pas fini, qu'il y a des souffrances du passé qui ne sont pas encore cicatrisées, hein, des mémoires qui... Hein, ces souffrances ont longtemps été tues, mais elles sont encore vivantes, dit Macron, dans la mémoire des peuples colonisés, y compris chez ceux qui ont reçu cette souffrance en héritage, bien que née en France. Et, dit-il, les deux souffrances ne s'annulent pas. Et après, il parle de la souffrance des pieds noirs. Et il dit, les deux souffrances ne s'annulent pas, elles s'additionnent. Je peux d'une même main reconnaître la souffrance des harkis et des pieds noirs et reconnaître celle des colonisés qui ont payé de leur sang l'implantation de l'État français sur leur sol. Et il continue en disant, voilà, instrumentaliser ainsi les mémoires dans l'arène politique n'est pas raisonnable. Je souhaite réconcilier les mémoires et non pas les opposer. Alors là, il est très très proche de ton projet, James, je pense, il est au plus... Le défi, c'est d'arriver à reconstruire après l'émergence du mal. C'est tout le travail qui a été fait en Afrique du Sud, après la période de l'apartheid, avec la commission Vérité et Réconciliation, présidée par l'archevêque anglican Desmond Tutu. Ce fut un vrai travail politique. On nomme le mal et on pardonne. C'est le principe même de l'amnistie. À un moment, on décide d'oublier. Tout à fait l'idée de Nantes. C'est aussi l'idée de la fin de la guerre civile entre les Athéniens, qui a été longuement travaillé par Nicole Laureau, il y a un temps, où on ne parle plus. Il est interdit de parler des souffrances passées. Et peut-être que ce temps est un temps, justement, au sortir de la guerre. À un moment où, justement, quand on sort de la guerre, il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour se taire parce qu'il y aura aussi, peut-être un peu plus tard, un temps pour parler, un temps pour lever les mémoires. Peut-être qu'en effet, il est temps de lever la mémoire des crimes et aussi des bienfaits de la colonisation, enfin de rouvrir toute cette mémoire, rouvrir toutes les mémoires. Et je pense que là, il y a une dialectique subtile. En tout cas, l'idée de qu'il y aurait une obligation de mémoire, d'oubli politique, Ricoeur ne le concède pas tellement, alors que pour moi, c'était très très important. C'est un vrai débat que j'ai eu avec lui. Moi, je pense que l'idée de Nantes est quelque chose d'extrêmement positif. Je pense que pour Ricoeur, l'idée de Nantes portait dans ses flancs déjà... parce que justement, on n'avait pas fait le travail de formulation du dissensus et du différent jusqu'au bout. L'édit de Nantes avait enterré le conflit et donc ne l'avait pas résolu. Je veux terminer en allant un peu plus loin à partir de ma propre lecture de Mémoire et histoire, l'oubli. Je vais compliquer un peu en continuant. Il faut dire que c'est deux métiers différents. Hein. L'homme politique, c'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui avance, quelqu'un qui décide, qui doit décider. Le philosophe, c'est quelqu'un qui est capable de conversations infinies, si vous voulez, de discussions infinies. C'est très, très, très... Et Macron, à plusieurs reprises, dit, ouais, c'est vraiment des discussions interminables. Il le dit pour le passé, pour le... Il lit Ricoeur, mais il le dit, on sent, il a 22 ans, mais on sent qu'il n'aime pas trop ça, quand même. Il y a un moment, il faut arrêter les discussions, quand même. On sent un petit écart. Donc, comment est-ce qu'on va conjuguer cette représentation du passé et cette question de la juste mémoire, hein, par rapport au trop et au trop peu. Je crois que le fond du problème de Ricoeur, pour moi, donc, Macron en fait tout de suite un problème politique, il n'a pas tort, mais moi je crois que le fond du problème de Ricoeur est un problème très radical, c'est le problème du scepticisme. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai dit, on pourrait arriver dans un monde où il n'y a plus que des autres. Plus personne ne dit « je », si je peux dire, ne dit vraiment « je », hein, il a un point de vue. Il n'y a que des autres, on est des touristes, de la géographie, mais on peut être aussi des touristes de l'histoire. On n'a plus d'ancrage, on n'a plus de mémoire, on est dans une sorte d'histoire neutre, etc. Et en fait, c'est, dit Ricoeur, ce qui est en train de nous arriver par rapport à l'histoire, où nous sommes dans une époque de scepticisme, d'incrédulité générale. La preuve d'ailleurs, dit Ricoeur, c'est qu'il nous faut des doses de témoignages. Aujourd'hui, on est à l'ère du témoin. Il faut des témoins, il faut que les témoins soient tellement dans leur voix, dans leur corps, les marques de ce qui leur est arrivé, qu'on... Ah oui, c'est quand même vrai, parce que là, vraiment... Oui, il faut des doses de témoignages de plus en plus grandes pour que ça devienne crédible. Vous voyez, c'est tout à fait caractéristique de notre époque. Et pourquoi ? Parce que, globalement, on ne reçoit pas. On n'y croit pas. On est incrédule. C'est pas fiable. Il n'y a plus que des opinions subjectives, si vous voulez. Et donc, on ne se fait plus confiance les uns aux autres. Donc, il y a vraiment profondément un problème de confiance pour Ricoeur. Et donc, je dirais de confiance dans l'attestation, dans le témoignage. J'y étais, je vais vous dire ce que moi j'ai vu. Il y a d'autres témoins peut-être qui ont vu d'autres choses. Il y a une pluralité de témoignages, mais il y a du témoignage quand même. Hein, soit il y a une vérité, soit il y a que des opinions subjectives. Voilà le problème. Hein. Donc, je reviens sur cette confiance et cette idée qu'il faut retrouver, refaire crédit mutuellement et refaire un langage fiable. Eh bien, pour cela, ça suppose aussi de redistinguer les différentes fonctions dans le rapport au passé. Il y a la fonction de l'historien, on en a parlé, il y a la fonction du juge, il y a la fonction des politiques, des législateurs, il y a la fonction des artistes, il y a la fonction... Tout ça, c'est des citoyens. Le citoyen, il est partout. L'historien, il est sensible, Macron l'observait, l'historien, il est sensible à des responsabilités structurelles, complexes, contextuelles. Le juge, lui, il est attentif à des responsabilités imputables, individuelles. Vous voyez, déjà, c'est un rapport complètement différent au passé. Est-ce qu'on voit le passé avec... Je dirais en le prenant par le petit bout de la lorgnette, je ne sais pas quel est le bon bout d'ailleurs. Hein, bon, est-ce qu'on cherche à identifier des individus ou est-ce qu'on cherche à comprendre des systèmes complexes de causalité des structures? Ça, c'est déjà une différence. Le politique aussi il va édicter des lois, hein, les lois de reconnaissance du génocide arménien. Moi, si vous voulez, j'étais très proche d'historiens à ce moment-là et j'étais un petit peu inquiet que le Parlement fasse des lois sur la mémoire, toutes les lois mémorielles. À vrai dire, sur la question arménienne, je me suis aperçu que ça faisait beaucoup de bien, parce que, du coup, les Arméniens, j'avais beaucoup d'amis arméniens, qui, du coup, ont pu décrocher de la position de devoir, eux, défendre leur mémoire, parce que l'État avait pris ça sous sa protection. Et donc, du coup, eux pouvaient commencer à dialoguer entre eux et rouvrir un rapport au passé beaucoup plus différencié. Donc, ça a été très positif. Mais vous voyez, c'est compliqué. Et puis, je dis aussi, le rapport au passé, aujourd'hui, il est largement fait par les artistes. Le cinéma, la littérature, la fiction, et puis tous les... Enfin, toutes sortes de... Tout ça, c'est des figures du passé, de comment est-ce qu'on voit le passé. Et donc, il y a entre ces différentes figures, je dirais, un effet de stéréoscopie. Le passé prend du relief, justement, au croisement entre la fiction, l'histoire, la justice, le politique. Et au milieu de tout ça, il y a des citoyens. Alors, Ricoeur tient beaucoup, et ça, c'est un point que je voudrais mettre en avant, parce que je pense que Macron n'y a peut-être pas fait assez attention. Ricoeur insiste sur le fait qu'il n'y a pas de tiers absolu. Il n'y a pas un juge des juges ou quelqu'un qui soit au-dessus de l'historien, du juge et de l'artiste, hein, qui pourrait dire, voilà, moi, quand même, je vais arbitrer entre vos conflits. Non, nous sommes dans le conflit des représentations du passé. Et ce conflit, justement, il faut qu'il devienne, il faut le réconcilier. Il faut que nous nous réconcilions avec notre propre conflictualité, avec la conflictualité du rapport au passé, avec le dissensus, ce que Ricoeur appelle le dissensus civique. Il s'appuie là sur un auteur qui s'appelle Marc Oziel. Oziel s'attache au dissensus suscité par la tenue publique des procès et à la fonction éducative exercée par ce dissensus même au plan de l'opinion publique. Vous voyez, donc, chaque fois qu'il y a le procès Papon, etc., ça se dispute, ça travaille, ça, mais ça fait travailler tout le monde, ça fait faire du travail de mémoire, si je peux dire. La confiance placée dans les bienfaits attendus d'une telle culture de la controverse se rattache au credo moral et politique de l'auteur quant aux conditions de l'instauration d'une société libérale. Et libérale, une société qui tire de la délibération publique, du caractère ouvert des débats et des antagonismes résiduels que ceux-ci laissent derrière eux, sa légitimité. La légitimité vient du débat. Hein, et représentatif, ce qui est représentatif, ce n'est pas quelqu'un, c'est un débat. Hein, pour représenter une société, il faut chercher le débat le plus représentatif de cette société. En parenthèse, c'est un peu ce qu'a fait Macron en disant gauche-droite, est-ce que c'est représentatif? Est-ce que le vrai débat représentatif, est-ce que c'est pas plutôt fermé, ouvert? Alors on peut ne pas être d'accord avec lui, mais en gros c'est comme ça, il a essayé de proposer un autre débat, un autre clivage, une autre manière de poser le débat. Bon. Donc, il faut faire travailler les différents. Je reviens sur la réconciliation des mémoires. Il faut faire travailler les différents, il faut formuler les désaccords, plus que les désaccords. Quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, mais on est d'accord sur ce sur quoi on n'est pas d'accord. Tandis que dans les différences, on n'est même pas d'accord sur ce sur quoi on n'est pas d'accord. C'est ça le problème. Et en général, souvent dans l'histoire, c'est comme ça que ça se passe. Ou dans les conflits de société, on ne sait pas ce qui se prépare pour la France de demain. Voilà. Il faut faire formuler le différent. Alors je vais conclure en portant quelques remarques sur cette question de la réconciliation. Je dirais, ça correspond d'ailleurs à l'épilogue de Ricoeur sur ce qu'il appelle le pardon difficile. Moi je dirais d'abord qu'il ne faut jamais sous-estimer la capacité qu'ont les humains à faire leur propre malheur. C'est absolument prodigieux. Et ça marche pour les vies individuelles comme pour les vies collectives. Nous pouvons très bien faire notre malheur. Nous l'avons très bien fait dans l'histoire, énormément, et nous pouvons très bien continuer. Et nous voyons autour de nous des peuples qui font leur propre malheur, ou des tyrans, ou des despotes, ou qui préfèrent faire le malheur plutôt que d'avoir tort, par exemple, ou plutôt que de devoir faire avec d'autres, hein, qu'ils détestent, etc. Pierre Bayle, que j'affectionne, disait « L'homme préfère se faire du mal pourvu d'en faire à son adversaire, plutôt que de se procurer un bien qui tournerait aussi à l'avantage de son adversaire. » C'est horrible. C'est pas très libéral. Ricoeur écrivait aussi « L'homme préfère que son malheur soit une punition plutôt que d'accepter qu'il y a du malheur absurde. Bon. » Eh bien, on va en faire une punition et donc on va faire du malheur en plus parce qu'il faut absolument trouver pourquoi, trouver la cause, mais trouver la cause dans un sens de punition. Le malheur est toujours une punition. Et c'est une vision pénale du monde qui, dit-il, est complètement répandue, dit Ricoeur, c'est un texte. Alors le pardon là-dedans, juste une petite remarque, le pardon a à voir avec la promesse. Ce sont les deux limites de l'agir humain pour Hannah Arendt, et Ricoeur s'appuie beaucoup sur Hannah Arendt à la fin de ce livre, pour dire que pour pouvoir se lier par la promesse, s'engager par la promesse, il faut pouvoir avoir été délié, désengagé par le pardon. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de promesse possible. C'est les deux faces qui tiennent ensemble l'agir humain, parce que l'agir a affaire à l'irréparable, à l'irréversible, et face à l'irréversible, nous n'avons que le pardon, que la demande de pardon, et face à l'imprévisible des affaires humaines, nous n'avons que la promesse pour mettre un peu de stabilité dans l'infinie imprévisibilité des affaires humaines. Je dirais que le pardon moral, dans les questions politiques comme cela, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que dans le pardon moral, personne ne peut pardonner à ma place. La vengeance, c'est le refus qu'il y ait un tiers qui fasse la justice. Je me fais justice moi-même. Le pardon, c'est personne ne peut demander pardon à ma place et personne ne peut pardonner à ma place. D'accord, ça, c'est un point de base, je dirais, des conditions ordinaires du pardon normal, si vous voulez, ordinaire. Bon. Alors, le problème, c'est que là, justement, en politique, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que, justement, en politique, il ne cesse d'y avoir des déplacements. On a affaire à des enfants de victimes qui sont encore victimes, à des enfants de coupables qui ne sont pas coupables. On a affaire à des décalages de l'histoire, à des décalages des générations. Donc, c'est beaucoup plus compliqué, c'est des culpabilités collectives. Il faudrait d'ailleurs distinguer des culpabilités, justement, morales, individuelles, les culpabilités pénales en justice, les culpabilités politiques à proprement parler, qui sont collectives, qui sont historiques, qui sont devant le tribunal de l'histoire. Ça, c'est quelque chose que Ricoeur emprunte à Cal Jaspers, hein, qui avait écrit un livre sur la culpabilité juste à la sortie de la guerre. Et donc, voilà. Donc, en politique, on va parler de réconciliation, pour reprendre le mot de James. De réconciliation. Et la réconciliation, c'est un travail politique de déplacement. Nous devons nous déplacer pour prendre sur nous, comme Willy Brandt, qui n'était pas du tout un nazi, a pris sur lui d'aller s'agenouiller au mémorial du ghetto de Varsovie. C'est un acte politique de déplacement. Il faut se déplacer. Et donc, c'est un déplacement dans lequel qui est là pour débloquer les places, en quelque sorte. Ça veut bien dire qu'on a affaire à quelque chose de collectif, quelque chose dans lequel on peut... c'est pas chacun qui garde son rôle, qui garde son identité. Le pardon ou la réconciliation, d'ailleurs, brouille les identités profondément. Plus profondément encore, je dirais que la réconciliation demande un langage à plusieurs voix, un récit à plusieurs voix, quelque chose d'ailleurs, à mon avis, d'épique. Pour moi, c'est ça, l'épopée. L'épopée, il n'y a pas un personnage de l'épopée, il y a plusieurs personnages, il y a plusieurs points de vue narratifs, hein, qui peuvent être en contradiction, et qu'on va, par tout un travail de mise en intrigue commune, on va essayer de faire cohabiter plusieurs récits différents dans un seul grand récit. Donc, comment mettre ensemble, dans un récit commun, des récits apparemment au départ incompatibles. Voilà le travail, qui est un travail historique, qui est un travail d'artiste, qui est un travail de fiction, qui est un travail qui traverse tout, mais qui est un travail essentiel du langage. Comment créer un langage capable de nous faire cohabiter. Voilà ce qui est difficile, et voilà qui demande de l'imagination. Je n'ai pas du tout développé cet autre thème de rigueur très important. Qu'est-ce que c'est que l'imagination? Mais l'imagination, ce n'est pas seulement la faculté de se représenter l'absent, c'est aussi la faculté de tenter de s'imaginer, de se mettre à la place d'un autre, hein, et de se voir soi-même du point de vue d'un autre. Donc aussi de reconnaître sa propre étroitesse. Donc voilà, il y a tout cela. Et tout ça, derrière tout cela, il y a le thème de la confiance. J'ai beaucoup parlé finalement de cette grave crise de scepticisme, d'un scepticisme auquel on ne peut pas répondre par un dogmatisme, un scepticisme qu'il faut en quelque sorte domestiquer. Oui, il y a du doute. Oui, il faut douter. Oui, il y a du questionnement. Oui, je suis un peu un autre que moi-même. Hein, je suis même comme un autre. Mais c'est parce que j'accepte de porter de l'altérité en moi, de me pluraliser, etc., que quand même je découvre beaucoup plus profondément qui je suis et je peux rencontrer un autre. Donc il faut avoir confiance en soi pour rencontrer un autre que soi, pour avoir confiance en autrui. Il faut avoir confiance en nous pour avoir affaire à d'autres, à eux. Hein, Et donc je dirais il faut avoir confiance pour être capable de critique. Moi je pense que le fait que Emmanuel Macron il peut parler de manière si sévère de la colonisation, ça montre aussi sa très grande confiance. Confiance en soi, confiance en nous, confiance dans la capacité de la culture française à assumer enfin un peu plus son passé, complètement, dans toute son épaisseur, et aussi dans tous ses drames, dans toutes ses équivoques. On ne peut pas aller loin dans la critique si on ne va pas loin dans la confiance, et réciproquement, on ne peut pas aller loin dans la confiance si on ne va pas loin dans la critique. Ça, c'est encore complètement Ricoeur. Et puis, je disais que c'était pas fini, que l'histoire n'est pas finie, c'est la capacité à rouvrir dans le passé d'autres promesses, hein, d'autres possibles, et c'est la capacité à s'inscrire dans ce grand fleuve dont je parlais tout à l'heure. Je vais peut-être vous lire la citation de Ricoeur, parce qu'elle rejoint complètement celle de Macron que nous venons de lire. Voilà. Un retour pur idéal des Lumières ne me paraît plus aujourd'hui suffisant. Pour libérer cet héritage de ces perversions, il faut le relativiser, c'est-à-dire le replacer sur la trajectoire d'une plus longue histoire, enracinée d'une part dans la Torah hébraïque et l'évangile de l'Église primitive, d'autre part dans l'éthique grecque des vertus et la philosophie politique qui lui est appropriée. Autrement dit, il faut savoir faire mémoire de toutes les traditions qui se sont sédimentées. Hein ? Je pense que c'est ça. Je pense que la confiance qu'il nous faut pour nous tourner vers le futur, pour nous retourner vers le futur, pour ouvrir un avenir, c'est la confiance de savoir que nous venons de loin, et que nous venons de loin avec des sources extrêmement multiples, et que les apports avec lesquels nous allons pouvoir retisser une intrigue commune, ces apports ne sont pas terminés, ils sont entre nos mains. Merci.
Sur FM Plus Radio Régionale Antenne de Montpellier, le professeur Olivier Abel, philosophe, vient de nous présenter un autre philosophe, Paul Ricoeur, avec un petit détour par Emmanuel Macron, qui, jeune, a croisé Ricoeur, notamment autour de son ouvrage de référence, La mémoire, l'histoire, l'oubli. Ouvrage sur lequel insiste Olivier Abel, le situant au cœur de la réflexion sur les conflits jusqu'au niveau géopolitique le plus large et la notion de réconciliation. Olivier Abel était l'invité de l'Église protestante unie de Montpellier. Au revoir et à bientôt sur FM+, pour un prochain parcours.